Une vie, une destinée. Mon Dieu, ma vie, ma destinée. Ton Dieu, point d'interrogation. Ta vie, ta destinée. Continuons dans la série de ces personnes que Dieu a appelées, appelées par Dieu. Et Dieu vous appelle. Il a pour vous une destinée. Amen. Alors, ce matin, nous allons découvrir un personnage dont on n'a peut-être pas forcément l'habitude de parler. C'est Myriam ou Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron. On va commencer par lire les quatre passages où Myriam apparaît. On va commencer en Exode, au chapitre 2. Le peuple d'Israël est devenu esclave en Égypte. Il souffre dans une oppression terrible qui s'accentue parce que le pharaon, voyant le peuple grandir, a ordonné la mise à mort de tous les nouveau-nés garçons. Donc, une tuerie. Et voilà que Jochebed accouche de bébé Moïse. Mais elle le cache. Elle ne veut pas se résoudre à ce que les soldats arrivent, à ce que les sages-femmes interviennent en indiquant la naissance, et elle le cache. Et au bout de quelques mois, eh ben il devient trop grand pour continuer d'être caché. Et par la foi, elle va le confier aux eaux du Nil. Elle va lui faire une sorte de je suis pas un truc flottant là, vous voyez, un berceau flottant et bien étanche, et elle va le confier non pas au Nil, mais au Seigneur. Et c'est là que nous rencontrons pour la première fois Myriam, cette grande sœur qui va veiller sur son petit frère. Alors on lit Exode 2, un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. On rencontre Myriam, on fait connaissance avec elle dans cet épisode. On poursuit en Exode au chapitre 15. Voilà que Moïse est devenu grand, qu'il est allé en Égypte. Let my people go, hein, a-t-il dit en hébreu. Et Pharaon a dit non. Et il y a eu toutes les plaies. Et puis finalement, Pharaon cède et laisse le peuple aller. Et ils sont coincés devant la mer Rouge. Mais Dieu ouvre la mer Rouge en deux. Et le peuple traverse, puis se referme sur l'armée égyptienne. Et c'est une véritable victoire, c'est une délivrance extraordinaire, c'est la main de l'Éternel, c'est qui a fait sortir son peuple à main forte et à bras étendus. Et quelle reconnaissance! Et voilà un cantique qui s'élève des cœurs de tout le peuple au chapitre 15, un cantique en l'honneur de l'Éternel. Et au verset 20, nous voyons Myriam. Exode 15, verset 20. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Voilà la deuxième fois où on rencontre Myriam, qui entraîne à sa suite le peuple et toutes les femmes dans un cantique avec les tambourins et les danses pour se réjouir et chanter et danser d'allégresse de la victoire, de la délivrance que l'Éternel a fait intervenir. Nous continuons avec Myriam, cette fois-ci dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, voilà que Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois allez à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui soit à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. » Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Et puis nous quittons Myriam au chapitre 20 du même livre, Nombre au chapitre 20. Nombre 20. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dire, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel. Comme l'Éternel lui avait ordonné, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Voilà. Alors, Myriam. Myriam est suscité et appelé par Dieu une vie, un Dieu, une vie, une destinée, et Dieu a préparé le libérateur de son peuple, Moïse, mais voilà que pour cela, il appelle Myriam, eh bien, pour qu'elle sauve la vie de ce bébé, pour qu'elle veille sur lui, pour qu'elle le protège. Et nous avons ici l'appel d'une jeune fille. Elle est jeune et c'est pas parce qu'on est jeune que Dieu ne peut pas nous appeler. Amen. Il appelle des jeunes à son service. Il appelle des jeunes à se lever pour lui. Ça, c'est formidable. Jeune, mais entreprenante. Voyez l'initiative de Myriam, comment elle saisit l'opportunité et comment elle va intervenir de manière appropriée auprès de la fille de Pharaon pour suggérer une nourrice qui est la maman même du bébé Moïse. Un petit bout de femme avec beaucoup de courage, de perspicacité, d'amour, d'esprit de service. Et c'est pas parce qu'elle est ado que elle passe sa journée sur son smartphone à faire pas grand chose de sa vie. Non? Elle est là et elle seconde. Elle est là auprès de la maman. Nous voyons Jochébède active aussi. C'est elle qui décide de cacher le bébé. C'est elle qui prépare le berceau. C'est elle qui va l'allaiter, en prendre soin, etc. Néanmoins, Myriam est là pour l'aider, pour seconder dans la famille, dans le foyer, sa maman. Et elle va veiller sur son petit frère. Elle va le protéger, elle va lui sauver la vie. Et c'est quelque chose de formidable, que Dieu peut vous appeler, vous qui êtes jeune. Amen. Alors, faites de votre jeunesse quelque chose qui soit utile, quelque chose qui soit constructif, parce que nous voyons là Myriam à la maison avec son petit frère Moïse, mais nous la retrouverons des années plus tard dans l'état-major de Moïse qui conduit le peuple. Un appel dans des conditions de pression extrême. On a besoin de se rappeler que vraiment, d'abord, ils ont des conditions d'esclaves, mais en plus se rajoute là, le décret d'un génocide. On va tuer tous les nouveau-nés garçons et toute femme qui tombe enceinte, est dans la terreur, dans la crainte. Ce sont des drames familiaux, ce sont des meurtres en masse. Et c'est dans cette atmosphère que Dieu appelle Myriam. Dieu peut nous appeler dans des conditions extrêmes. Dieu peut nous appeler sous l'oppression, dans des conditions de vie traumatisantes. Dieu peut nous appeler. Et peut-être on se dit, mais moi j'ai vécu des choses difficiles, la situation est adverse, il y a de l'opposition, et tout jeune, dès mon enfance, comme Myriam, vous n'avez pas vu la vie que j'ai, le milieu dont je suis issu. Il y avait de quoi être traumatisé. Mais il y avait une famille qui conservait sa foi en l'Éternel, précieuse, vivante. Et Dieu suscite Myriam, il appelle Myriam, quelles que soient les conditions de vie traumatisantes dans lesquelles elle est, il l'appelle. Et Dieu peut nous appeler dans des conditions de vie difficiles, dans une pression extrême. Ça n'empêche pas Dieu de nous susciter pour sa gloire. Amen. Dieu suscite Myriam pour veiller sur Moïse qui sera le libérateur du peuple. Elle aide à s'occuper, à protéger un enfant dont la génération est sacrifiée. Et cela nous oriente aussi sur ce service des générations sacrifiées. Alors oui, il y a plein de manières d'avoir des générations sacrifiées. Peut-être dans notre histoire en France, il y a eu des générations sacrifiées lorsqu'il y a eu les guerres mondiales. Il y a eu les générations sacrifiées lorsque les papas sont revenus d'une guerre d'Algérie odieuse et que ça a eu des impacts sur des générations. Il y a eu des générations sacrifiées avec mai 68, par exemple, des changements éthiques, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, la génération sacrifiée l'est à cause des écrans. Il y a des tas de raisons qui impactent en négatif des générations, et l'Église de Jésus-Christ a besoin de s'occuper, de se pencher sur ces jeunes, sur ces enfants, sur ces adolescents, en dépit du contexte qui s'oppose des attaques de l'ennemi. Et combien il est précieux de s'occuper des enfants. C'est là que Myriam commence, elle s'occupe d'un petit frère. Combien d'ados auraient préféré dire c'est bon, changer les couches et l'autre qui braille et tout, ça va quoi. Les enfants sont précieux. Amen. J'ai eu beaucoup de joie la semaine dernière de recommencer ce groupe de collégiens. Presque plus de joie avec eux que de prêcher ici en fait. Non pas que je n'aime pas prêcher, mais les enfants, les jeunes, c'est spécifique. Bon, c'est peut-être mon métier aussi. Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Alors, il y a des appels pour se lever. Myriam n'est pas beaucoup plus âgée que son frère, je veux dire, elle a peut-être 15, 16 ans plus, j'en sais rien. Néanmoins, elle se lève et Dieu la suscite pour une œuvre. Et dans l'Église, c'est la même chose. Occupons-nous des enfants, des plus jeunes, de ceux qui grandissent, plutôt que de les mettre de côté et de les délaisser. Amen. C'est l'appel de Myriam à cet âge-là. Nous la retrouvons donc en Exode 15, au sortir de la mer Rouge. Et voilà une femme de tête choisie par le Seigneur. Fidèle petite, le Seigneur lui confie davantage. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Prenez Michée 6, verset 4 avec moi, ou écoutez-le si c'est trop compliqué à chercher. Michée 6, verset 4 nous dit la chose suivante, car c'est Dieu qui parle au peuple, il dit « Je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la main de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Peut-être dans votre version, vous avez Marie, hein, Myriam, Marie, c'est pareil. Oui, le Seigneur a suscité et a envoyé avec Moïse et Aaron, il a envoyé et suscité Marie. Une femme de tête choisie par le Seigneur. Un service spirituel. Elle est appelée Marie la prophétesse. Et le Seigneur avait une relation avec elle où il lui révélait, lorsque nécessaire, ce qu'elle avait besoin pour pouvoir le transmettre à d'autres. Un service spirituel auprès du peuple. Et en particulier dans ce passage, nous la voyons entraîner les femmes à sa suite. Un ministère d'importance auprès de femmes, d'enfants, mais par extension de tous que Dieu a confié à Myriam. Et voilà que dans ce passage, il y a un bel appel. L'appel à communiquer la joie dans le Seigneur. L'appel à tourner les cœurs des autres vers la reconnaissance. Nous voyons Myriam qui prend le tambourin et qui va impulser et entraîner. C'est une femme d'influence, c'est une femme charismatique. Le mot charismatique, c'est vraiment cette idée d'avoir quelque chose, un don particulier qui fait que vous êtes contagieuse quelque part, ou vous entraînez, vous avez un charisme que vous communiquez. Et le peuple, à ce moment-là, il a besoin de chanter d'allégresse, d'exprimer à Dieu sa reconnaissance, de vibrer pour le Dieu d'Israël. Un appel à entraîner avec elle dans la joie du Seigneur. Et ça, c'est un appel que Dieu peut confier à beaucoup. Vous savez, nous avons nos caractères, et vous avez les caractères de ceux qui ne sont pas très exultants, très sobre, et voilà. On peut même avoir un caractère un peu pessimiste, un peu sombre, un peu renfermé. Et qu'il est bon d'avoir des rayons de soleil. Des rayons de soleil qui communiquent la joie, qui communiquent la reconnaissance. Et dans l'Église, comme dans les familles, nous avons besoin de personnes qui sachent tourner les regards de ceux qui les entourent vers des sujets de joie et de reconnaissance. Et dire, oh, mais t'as vu, ça c'est formidable, réjouissons-nous. Ah, merci Seigneur, c'est... Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, merci Seigneur. Qui sont précieux. ce qui entraîne vers la louange, vers la reconnaissance. On n'est pas en train de parler ici d'une ambiance fabriquée, comme le monde peut fabriquer, et sait très bien le faire, une ambiance de fausse joie, où on va s'éclater dans des spectacles, dans des boîtes, dans tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas ce modèle-là qu'il s'agit de vivre ensemble, ce n'est pas une joie pour la joie. C'est une joie dans notre Dieu. Amen. Mais cette joie de vivre, cette joie d'être reconnaissant, eh bien, elle se communique. Et certains ont ce don particulier, cet appel, à pouvoir le transmettre. Et vous savez, dans une famille, lorsque vous avez une maman qui est plutôt pessimiste, pas très enjouée, un brin dépressif, vous voyez, ben, l'ambiance de toute la maison est lourde, pesante, parce qu'une femme, c'est souvent le rayon de soleil ou pas, de toute la maison. Hein. Mais quand vous avez quelqu'un qui, même dans la difficulté, dans l'adversité, dans les tracas, s'est positivé en Christ, c'est être reconnaissante et prendre le tambourin, comme c'est précieux. Et ça, c'est un ministère, c'est un appel. Alors, n'hésitez pas à encourager chacun. Si c'est votre don, si vraiment c'est votre état d'esprit dans lequel le Seigneur vous a placé, d'être optimiste, joyeux, tourné, contaminé d'une bonne manière autour de vous. Utiliser son charisme pour tourner les cœurs vers le Seigneur, c'est ce que fait Marie. C'est une femme influente, c'est une femme qui sait entraîner d'autres à sa suite. Et son charisme, elle l'utilise pour tourner les cœurs vers le Seigneur. Quel est votre charisme? Est-ce que vous avez un charisme? Est-ce que vous avez une communication facile? Est-ce que vous avez un talent particulier comme ça qui fait que bah, les gens vous écoutent, les gens sont sensibles à utiliser ce charisme pour tourner les cœurs vers le Seigneur. Amen. Alors, ça arrive qu'on fasse des faux pas. Et en nombre 12, voilà une femme de tête à qui ça monte à la tête, qui s'entête et qui prend la tête. Un peu trivial. Avec un double sens de prendre la tête d'ailleurs. Moïse doit beaucoup à sa sœur Myriam, beaucoup. D'abord, la vie, tout simplement. Puis le soin et la fidélité. Mais il lui doit aussi son accompagnement dans le leadership du peuple. Moïse était un chef d'État sans terre, chef d'État quand même, dans une nation, ben vous devez gérer tous les besoins de cette nation avec des hommes, des femmes, des enfants, et tout ce que ça implique. Et nul doute que Myriam, qui a été envoyée par le Seigneur pour faire sortir ce pays d'Égypte aux côtés de Moïse et d'Aaron, nul doute que c'est elle qui permettait à Moïse d'avoir un pied dans une bonne prise en compte de tous les besoins, de toutes les problématiques qui concernaient les réalités quotidiennes des femmes, qui concernaient leur organisation domestique, lorsque le camp bougeait, etc. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique, etc. Et les femmes étaient fortement, elles étaient au cœur de tout ça. Avec toute une logistique, surtout pendant si longtemps dans le désert, en 38 ans, jusqu'à ce que Myriam décède, Tout ce qui concerne les enfants, la petite enfance, l'éducation, les soins. Et Moïse devait beaucoup à l'implication de Myriam, à sa vision, à son opinion, à ses conseils. Elle était là. Nul doute que le caractère charismatique de Myriam et sa joie avaient certainement plus d'une fois été mis au service de Moïse auprès d'un peuple rebelle et râleur. Auprès des femmes en particulier, vous savez peut-être, je ne sais pas, qu'il vaut mieux avoir les femmes de son côté. Et certainement que Myriam mettait beaucoup d'huile dans les rouages. Il lui doit beaucoup, Moïse, pour gagner les cœurs et pour prévenir des racines d'amertume. Myriam a gardé, vous voyez, son côté de petite maman vis-à-vis de son frère Moïse. Certes, il est la vedette, mais attention, il lui doit beaucoup. Et voilà qu'aujourd'hui, Moïse ne va pas dans le sens de Myriam, ni d'Aaron. Eh bien, oui, c'est qu'il a épousé une femme éthiopienne. Contre l'avis dit, redit et répété de son frère et sa sœur. Exode 18 nous a montré, nous l'avions étudié l'été passé, que le choix de Moïse à l'égard de son épouse Séphora avait plutôt été de la préserver en la tenant loin du champ d'action et du champ de bataille. Il l'avait renvoyée chez son père pour qu'elle ne vive pas tous les épisodes en Égypte et la sortie d'Égypte. Et nous voyons plus tard, Jéthro la ramener. En disant, hey, il est peut-être temps. Séphora comblait le cœur de Moïse au niveau de l'affection, mais elle n'exerçait pas d'influence sur Moïse dans la conduite du peuple. Non, la femme d'influence près de Moïse, c'était sa sœur. Et puis sans doute, Séphora est décédée et Moïse s'est retrouvé veuf, probablement. Mais qui donc est cette Éthiopienne qu'il a épousée? Rien n'est dit sur elle. Mais il est évident que cette femme possède toute une histoire, tout un parcours qui l'a conduite, elle qui n'était pas juive, à trouver le chemin du cœur du vieux Moïse et à l'épouser. Vous pouvez être certain qu'il y a derrière tout cela une histoire exceptionnelle qui ne nous est pas racontée, mais qui se déduit de ce mariage surprenant de Moïse envers et contre l'avis de sa famille avec une Éthiopienne et non pas une juive, et non pas peut-être quelqu'un avec qui Myriam l'aurait bien vu. Contre l'avis de sa famille, mais pas contre l'avis de l'Éternel, comme la suite le montre. On peut évoquer, en tout cas, puisque nous ignorions toute cette femme, les liens étroits et répétés qu'il y aura entre l'Éthiopie et le peuple d'Israël. On pense plus tard à la reine de Saba, mais nous pensons à l'eunuque et une implantation qui, jusqu'à aujourd'hui, fait qu'en Éthiopie, il y a ces fameux juifs d'Éthiopie qui sont au niveau de la génétique et de l'ADN, rien de juif, des Éthiopiens de pure souche. Hein. Et jusqu'à leur évacuation en pleine guerre civile par les services secrets donc israéliens après-guerre, en masse. Avec un gigantesque pont aérien. Bon, bref. Donc, l'existence de ces Éthiopiens juifs avec la loi de Moïse, avec tout ça, ça reste historiquement peut-être un mystère, mais nous voyons en tout cas une empreinte très forte dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui de Moïse chez les Éthiopiens. D'où sort-elle, je ne sais pas. En tout cas, ça devait être une sacrée histoire. Hein. Je serais content de la connaître là-haut. Oui, mais Moïse ne va pas dans le sens de Myriam, là, ni d'Aaron. Eh, Moïse, c'est la, Myriam, c'est la petite maman, celle qui est à côté de Moïse, et sûrement que cette Éthiopienne est vue comme une rivale dans l'influence exercée sur Moïse. Et ça ne plaît pas. Et comme Moïse ne va pas dans le sens de son frère et de sa sœur, alors tous deux sortent de leur appel, de leur position, de la destinée que, dans laquelle Dieu les a mis, ils en sortent et contestent l'autorité de Moïse et envisagent même de le mettre sur la touche. Après tout, Moïse, c'est pas le seul, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Et puis si c'est comme ça, il ne va pas dans l'autre sens. Oh. Dans notre appel, veillons sur nos émotions. Et on peut comprendre, Myriam. Veillons sur nos émotions et soumettons-les au Seigneur. Et là, le caractère charismatique de Myriam, qui exerçait une influence positive, dit, il est plutôt mis désormais au service de la fronde. Sa capacité d'influencer, de convaincre, d'entraîner d'autres avec soi, eh bien là, elle est mise au service de la sape, de la critique et de la contestation. Le Seigneur intervient en la frappant de la lèpre, et c'est l'intercession de Moïse qui amène à la guérison, toutefois avec un temps de mise à l'écart nécessaire pour que des repères clairs soient donnés au peuple, d'une part, pour que Myriam elle-même, d'autre part, dans un travail intérieur de prise de conscience, de repentance, de restauration, puisse retrouver et être restaurée et réintégrée. Et je citerai 1 Corinthiens 5, 17, pour nous rappeler au niveau de l'appel de Myriam que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Soyons et restons dans l'appel qui est le nôtre. Même Paul disait, le Seigneur m'a donné un champ et je ne vais pas marcher sur le champ des autres. Je reste dans les limites de mon appel. Terminons avec nombre 20. Et nous quittons Myriam. Myriam, quelqu'un qui manque. Quelqu'un qui manque. Oui, mais vous avez des gens auxquels vous devez beaucoup, à qui vous êtes très attachés et qui vous manquent. Parce que le Seigneur les a envoyés ailleurs ou parce qu'il les a repris auprès de lui. Pourquoi est-ce que j'ai lu tout ce qu'on a lu dans Nombre 20? Parce que ce n'est pas un hasard si c'est immédiatement après la mort de Myriam que Moïse va pécher en frappant le rocher. Immédiatement après. Il va pécher en frappant le rocher de colère au lieu de lui parler. Et c'est une succession immédiate des événements. Il y a sa sœur qui meurt et qui est enterrée et le peuple se soulève. Peut-être parce que Myriam n'était plus là pour mettre de l'huile dans les rouages. Moïse a perdu sa sœur, qui s'est tenue en support pour lui tout au long de sa vie, qui a œuvré pour lui, pour son leadership, pour communiquer la joie, la reconnaissance. Ils étaient trois, ils ne sont plus que deux. Moïse doit se sentir à la fois triste, très triste, le chagrin, le deuil, démuni, dans la crainte, puis en colère. Il n'en faut pas beaucoup pour que le peuple le mette hors de lui. Et quand ce peuple se soulève contre Moïse, lui cherche querelle violemment, ça bouillonne, et la suite, on la connaît. Moïse frappe le rocher au lieu de lui parler. Et Dieu jugera Moïse en lui disant, parce que tu as frappé le rocher au lieu de lui parler, ben, tu n'entreras pas dans le pays promis. Cela interpelle sur les personnes qui comptent pour nous, qui sont un support, une aide, mais qui à un moment partent ou meurent. Quelqu'un qui manque, certes, oui, mais. Alors, on ne peut pas trancher, hein, si Myriam a quelque part entretenu cette dépendance. Quoi qu'il en soit, dans notre ministère, dans notre appel, là où le Seigneur nous place, nous devons avoir en tête que si le Seigneur à un moment nous enlève, tout ne doit pas s'écrouler dans le cœur des gens. Nous sommes en bénédiction à ceux qui nous entourent, mais nous devons tâcher de le faire de telle sorte que ce soit le Seigneur qui soit le rocher et pas nous. Pas évident, hein? Mais il y a une forme de tentation à se sentir le rocher des autres. Alors oui, Myriam manque, mais personne n'est indispensable quand c'est le Seigneur qui veille et quand c'est le Seigneur qui pourvoit. Amen. Et voilà pourquoi Moïse, le Seigneur lui reproche et dit, tu m'as pas fait confiance. C'est ça qui lui est dit, hein, c'est interpellant. Hein. Oh, le rocher, c'est moi. Christ est le rocher. Alors, imitons Myriam dans le beau modèle d'une vie consacrée. On a chanté entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Myriam qui s'engage, qui protège, qui seconde, qui communique l'enthousiasme et la joie dans le Seigneur. Et puis, les faux pas, observons-les, mais pour être en garde. Que le Seigneur soit béni pour cette femme formidable qu'il a suscitée, et pour son exemple, et que nous puissions répondre à l'appel, très jeune, pour qui êtes jeune, levez-vous pour le Seigneur, il vous confiera de grandes choses, en étant fidèle dans les petits. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, pour ton appel. Tu es notre Dieu, nous avons la vie qui vient de toi, et tu veux nous donner une destinée. Tu as préparé de bonnes œuvres à l'avance pour que nous y marchions, pour que nous les fassions. Seigneur, nous voulons marcher dans la destinée que tu as pour nous. Merci pour l'exemple de Myriam. Aide-nous à marcher à ta suite, à te faire confiance, à nous lever sans attendre des jeunes. Si, Seigneur, nous avons du charisme, de l'impact, de l'influence, que nous puissions l'utiliser pour tourner les cœurs vers toi, plutôt que pour faire un travail de critique et de ça. Seigneur, on veut que tu fasses de nous des instruments de joie qui communiquent ta joie, des rayons de soleil, comme le dit le cantique. Entendre que nous prions, pour que tu nous utilises, que tu te sers de nous et que nous soyons heureux de marcher là où tu nous appelles. Amen.